Le vif de l'histoire, nouvelle chronique consacrée à l'Ukraine. C'est une mythologie qu'a réactivé Vladimir Poutine hier en annonçant la reconnaissance des « républiques » entre guillemets séparatistes pro-russes en Ukraine, les Ukrainiens fascistes. D'où vient cette idée? Vous nous aidez à comprendre, Jean Lebrun. Seconde guerre mondiale, été 41, l'Allemagne d'Hitler attaque à l'Est, c'est l'opération Barbarossa, l'Ukraine en est la première victime, et le début de ce qu'on appelle en Russie la grande guerre patriotique à laquelle Poutine se réfère sans cesse. Un moment ébranlé par l'assaut d'Hitler, Staline s'adresse le 3 juillet à tout le pays, camarades, frères et sœurs, mais il exclut de la communauté les nationalistes ukrainiens qui lui en veulent et pour cause.
La politique de répression que Staline avait menée dans les années 30 avait provoqué, notamment par l'utilisation de la grande famine, quelques 3-4 millions de morts. Alors Staline n'avait évidemment pas laissé s'installer une opposition construite dans les limites de la République soviétique d'Ukraine, et les nationalistes s'étaient réunis en deux organisations qui passaient beaucoup de temps à des disputes assassines dans l'exil, l'UN M comme Melnik et l'UN B comme Bandera. Elles surenchérissaient l'une sur l'autre et rivalisaient dans le refus des allogènes qui ne méritaient pas une place dans leur Ukraine. C'est ainsi que les Juifs, qui déjà n'étaient pas aimés par Staline, ne pouvaient attendre que des pogroms de l'UN B comme de l'UN M.
Les allogènes, ceux d'une origine différente. Quand la Wehrmacht pénètre en Ukraine, Jean, une partie des nationalistes croit pouvoir saisir l'opportunité.
Oui, il ne manque pas d'Ukrainiens pour accueillir les Allemands avec faveur, et ils sont assez nombreux à les guider dans les premières actions anti-juives qu'il ne manque pas de commettre de suite. Stepan Bandera, le chef de l'UN B, envoie immédiatement son second proclamer l'indépendance de l'Ukraine à Lvov dès le 30 juin 41. Les généraux de la Wehrmacht seraient satisfaits d'avoir à leurs mains un gouvernement local, des troupes auxiliaires, mais Hitler a d'autres projets pour l'Ukraine et il expédie bien vite Bandera en camp de concentration. Et il crée en Ukraine un Reichskommissariat qu'il fait fonctionner purement et simplement comme un outil de colonisation. Exploitation des ressources, travail forcé. Le Reichskommissaire-Korps déclare un jour « Y aurait-il un Ukrainien digne de s'asseoir à ma table? Je l'abattrai aussitôt. » À terme, l'espace vital devrait être réservé à des fermiers allemands vertueux qui prospéreraient dans un espace écologique. En attendant, il faut faire avec des millions de prisonniers soviétiques, de juifs et de traîne misère dont il convient de se débarrasser le plus vite possible. Hitler, lui aussi, a son plan de la fin pour l'Ukraine.
Et cette brutalité suscite vite des résistances.
Des maquis, une armée même de nationalistes vont finir par grouper une centaine de milliers d'hommes qui en viendront, un moment du moins, à combiner la lutte anti-allemande au combat anti-soviétique. En parallèle, des partisans pro-soviétiques pourront se compter jusqu'à 50 000 qu'il faut ajouter, ou peut-être 2 millions de combattants ukrainiens de l'armée rouge. On parvient à un chiffre infiniment supérieur à celui des nationalistes en armes. C'est cette échelle qu'il faut garder en mémoire, en se souvenant aussi que l'Ukraine est tout entière occupée, ce qui n'est pas le cas de la Russie, et que s'y sont déroulées les plus grandes batailles peut-être de l'histoire, terre de sang, époque de fer.
Et les mémoires de tous les aspects de cette immense catastrophe sont difficiles à faire tenir ensemble.
1 million de juifs qui perdent la vie, vous savez, les premiers agenouillés au bord des fosses qu'ils ont dû creuser, ou bien allongé au fond, la Shoah par balle avant la Shoah par gaz. Les prisonniers soviétiques sans abri, à qui on jette du pain derrière les barbelés pour les voir se disputer. Les partisans qui traitent les nationalistes de collabos, les nationalistes qui se déchirent jusqu'à se combattre entre eux. Après la reconstitution de la République soviétique, les mémoires doivent s'aligner sur le modèle que Poutine voudrait aujourd'hui retrouver dans son unicité. Mais en 91, l'indépendance a été proclamée et depuis, c'est l'écartèlement. Ainsi, la polémique autour de la personnalité de Bandera est intense. L'homme a survécu à 45, les services secrets soviétiques l'ont assassiné en Allemagne en 59. Faut-il donner son nom à des rues? Faut-il célébrer l'anniversaire du 30 juin 41, date de la proclamation de son état éphémère? En 2018, la Rada, le Parlement de Kiev, accorde le statut d'ancien combattant aux nationalistes armés d'après 41, à condition qu'il n'ait pas été compromis dans un crime contre l'humanité. Alors on pense ce qu'on veut de cette politique mémorielle, elle est discutable, mais elle est discutée après des élections démocratiques et face à une presse qui peut parler. C'est cela aussi que déteste Poutine. Les amendements de la Constitution décidés par lui en 2020 donnent au Kremlin le monopole de la vérité historique.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Après le flash de 14h, ce sera la Terre au carré autour du peuple des humains, l'histoire des peuplements racontée par la génétique. France Inter.